Oui, les racines chrétiennes, oui, tout à fait.
Ça, c'est dû à Clovis. Hein, et donc, depuis, la société française est infusée de cet esprit de la chrétienté.
Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts. Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée spéciale que France Inter consacre à la loi de 1905, dont c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire, loi de 1905. Et c'est vrai que depuis ce matin, vous en entendez parler
en
tout le temps sur l'antenne, c'est la folie.
On va
zoomer sur une notion qui revient beaucoup dans le débat public, portée le plus souvent par des représentants de la droite et de l'extrême droite, moins souvent par Philippe Poutou. Les racines chrétiennes de la France. Pour notre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui a été écuyer acrobate au Puy du Fou pour financer ses études à Sciences Po, et qui restera pour son chorégraphe Bruno Retailleau, comme, je cite, le meilleur Charles Martel de l'histoire du parc, quand il fonçait sur les Sarrasins en hurlant « Vous n'aurez pas Poitiers !» On ne savait pas s'il jouait ou s'il était convaincu d'avoir hérité d'une sorte de mission divine, raconte en off notre désormais ex-ministre de l'Intérieur. Une chose est sûre donc pour Cyril, l'identité chrétienne de la France ne fait aucun doute. Là où ça se complique, niveau pluralisme dans cette émission, c'est que notre rédacteur en chef adjoint, Pierre Courade, enseignement Pierre de Courade, a également été élevé dans la rigueur de la foi catholique, qui plus est à Lourdes, où il retourne souvent se confesser pour expier toutes ces émissions wokistes qu'il supervise sur France Inter. Vous comprendrez que je suis inquiet cet après-midi pour le pluralisme de cette émission, où l'idée est néanmoins d'essayer d'examiner la réalité de cette affirmation selon laquelle la France et l'identité française seraient indissociables de ces fameuses racines chrétiennes. Alors, Cyril, prêt au moins à ouvrir le débat ?
Bonsoir !
Oh merde. Bon, visiblement, il n'est pas prêt.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, nous serons avec Christine Pedotti, qui est journaliste, Christine, une des meilleures connaisseuses, vous le verrez, du catholicisme en France. Avec elle, on va donc essayer de comprendre si ces racines chrétiennes de la France sont indissociables de l'identité française et si certains politiques ont raison de s'en revendiquer dans le débat public sans cesse. Donc, on va parler de tout ça, mais je vais d'abord présenter mes fidèles acolytes, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Ah, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, Christine. Vous êtes arrivée, vous êtes la directrice de la revue Témoignages chrétiens, cofondatrice de la conférence des baptisés francophones et du comité de la Jupe, une association qui s'appelle aujourd'hui Magdala. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit toujours, ouais, de défendre la dignité des femmes dans l'Église catholique, et je peux vous assurer qu'il y a du boulot.
Il y a effectivement un peu de boulot. On va se pencher cet après-midi donc avec vous sur cette expression, les racines chrétiennes de la France, qu'on entend sur toutes les chaînes d'infos un peu partout. Christine, déjà, est-ce que l'expression est plus aujourd'hui un outil, un marqueur politique, qu'une réalité historique, ou bien c'est une réalité historique et on peut pas la nier ?
Ah bah c'est quand même une réalité sur l'histoire longue. La France a été très longuement chrétienne. Ce qui est amusant, c'est que ceux qui prétendent arracher, s'agripper aux racines chrétiennes, ils disent bien qu'au fond, il y a quelque chose qui est disparu, puisqu'il faut aller rechercher dans les temps anciens des marqueurs. Donc en fait, en même temps qu'ils se raccrochent à quelque chose, ils avouent aussi qu'il y a quelque chose qui a disparu, qui n'est plus une réalité. Donc c'est une réalité ancienne, c'est pas forcément la même réalité aujourd'hui.
Du côté de ceux qui pensent que les racines chrétiennes de la France sont fondamentales, il y a évidemment Cyril Lacarrière, dont l'arrière-arrière-arrière-grand-père Childeric Lacarrière s'était fait remarquer lors de la première croisade, quand, alors qu'une flèche ennemie lui avait perforé la bourse droite, avait continué de foncer vers Byzance en hurlant « Jésus te baise !»«
Jésus te baise !»
Une foi qui irrigue les Lacarrière depuis toujours. Cyril, remontons avec vous à l'origine du sujet, dites-nous d'où ça sort.
Imaginez, la France est en pleine Troisième République. Paris est en pleine Belle Époque, mais la politique, elle, est électrique. Le pays est coupé en deux, les Républicains face aux catholiques conservateurs. Depuis un siècle, c'est le Concordat de 1801 qui fait la loi, un deal signé par Napoléon Bonaparte et le pape Pie VII. Selon ce concordat, l'État reconnaît les cultes, il paye le salaire des prêtres, des pasteurs et des rabbins. En échange, l'État a droit de regard sur qui fait quoi, une sorte de partenariat public-privé avant l'heure. Mais depuis la naissance de l'école laïque de Jules Ferry entre l'Église et l'État, c'est devenu compliqué. L'État est vent debout contre ces lois qui chassent Dieu de l'école et les républicains, eux, ont une obsession, couper les ponts. Ils rêvent d'une France qui ne dépend ni de Rome, ni de l'Évangile. C'est dans cette ambiance de guerre idéologique qu'apparaît le député socialiste Aristide Briand. Son idée, faire une loi qui ne soit ni une loi de persécution, ni une loi de faiblesse, et ça va malheureusement se retourner contre elle.
Et pourquoi ça, Cyril ?
Eh bien parce que chaque camp va y avoir une trahison. Pour les anticléricaux, pur et dur, cette loi de 1905 est un recul, et pour l'Église, c'est une spoliation. Le petit nom de la loi de 1905, c'est la loi concernant la séparation des églises et de l'État. Et ces deux premiers articles claquent comme une gifle contre les représentants de l'Église. L'article 1, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, c'est la liberté totale. Et l'article 2, qui fait office de coup de massue, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. On coupe les vivres, plus un sou pour les églises. En revanche, les édifices construits avant 1905, eux, deviennent la propriété de l'État. C'est pour ça que nos cathédrales appartiennent à la République. Le pape Pie X dénonce violemment le texte, refuse d'abord son application, mais il n'aura pas le choix, tout pape qu'il est. Alors d'où ça sort la loi de 1905 ? Eh bien, d'un essai de compromis historique, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Christine Pedotti, en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État est avant tout perçue, on l'a dit, comme une loi anticatholique. Mais avec le recul de l'histoire, est-ce que c'était vraiment le cas ?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on a deux mastodontes institutionnels. D'un côté la République, d'autre côté l'Église catholique, c'est deux puissances. Donc en fait, on sépare les pouvoirs entre deux puissances. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne se souvient plus que c'était comme ça, parce que l'Église catholique n'est plus une puissance. Donc en fait, c'est vrai que ça a été compliqué, parce que il y avait cette façon de se séparer. Bah, en fait, c'est comme un divorce. Hein. D'ailleurs, il a fallu séparer les biens, ce n'était pas simple.
Ça ne peut pas se passer bien, c'est comme un divorce.
Et puis, donc la réconciliation a été longue. Hein. On dit que les tranchées de 1914 ont réconcilié les Français, les curés ont été dans les tranchées. Et c'était des gabiens, donc ça avait fait de la réconciliation. Mais aujourd'hui, il faut dire les choses honnêtement, c'est une bénédiction, la loi de 1905. Parce que non seulement les cathédrales sont entretenues par l'État, mais chaque église est entretenue par les communes. Et quand on voit le nombre d'églises qu'il y a en France, je ne sais pas comment on pourrait entretenir toutes ces églises.
Donc, paradoxalement, ça a fait du bien
Oui, et puis peut-être que ça n'a pas fait du mal à l'église de devenir pauvre.
Marie de Broer, c'est l'heure des rétrospectives annuelles de nos plateformes d'écoute.
Et le top 3 des titres les plus écoutés de l'année sont interprétés par des femmes, Lady Gaga, Rosé et Billie Eilish. Bon, il faut quand même vous dire en toute transparence que deux de ces titres sont en featuring avec Bruno Mars. Voilà, hein, parce que derrière chaque grande femme se cache un petit loulou qui s'appelle Bruno et qui porte des Fedora. 24 karat magic in the air. J'aime trop les raps, ouais, j'aime trop. Je suis tellement heureuse de voir que mon ancienne pote du collège, dont je ne me rappelle plus du prénom, mais qui avait une teinture capillaire prune, Casting Cream Gloss by L'Oréal, elle a mis une story pour dire qu'elle avait grave écouté Nirvana cette année. Quoi. J'aime trop, c'est trop intéressant. Enfin, merci pour cette story Insta, meuf. Et non, j'enlève mon masque. En vrai, je m'en cogne, je m'en fous, je m'en bats les reins. Dire au monde tes goûts musicaux, c'est juste pour montrer à quel point t'es cool. J'ai l'impression de retourner au collège. Quoi. Moi, au collège, je mettais une chaussure rouge et une verte. Et j'avais une frange pleine de sébum pour cacher mes ch'tards qui partaient pas. Bah, parce qu'il y avait la frange pleine de sébum. Et comme j'avais les cheveux bouclés, bah, j'avais la frange bouclée. Donc une meuf de 14 ans ou Louis XIV en fait. Du coup, je lissais, mais que la frange. Voilà, donc, c'était ridicule. Vraiment, j'ai tout sauf envie de retourner au collège. Muriel, elle s'appelait Muriel, la meuf qui avait les cheveux couleur pruneau d'agent. On embrasse d'agent. Tous les gens d'agent.
Oui.
Et tous les pruneaux aussi. Il est Bruno Mars. Bon, on en reste un pro, c'est terrible. Je pense que j'ai déjà raconté ce que je vais raconter parce que je tourne un peu en rond avec cette histoire de quotidienne. Mais l'année dernière, mon titre le plus écouté, c'était Don't Stop Believin'. Mais attention, la version de Glee, pas l'original. Hein, et j'étais dans le top 0,01% des plus grands fans au monde de cette chanson. Et pourquoi c'était mon titre le plus écouté ? Oh, moi, je pensais que c'était la raison de ma réussite professionnelle et qu'il fallait que je l'écoute en boucle, sinon c'était finito les blagues pour la grosse Marie. J'étais zinzin. Je vous ai fait le rapt de mes engueulades avec mon mec, voilà, parce que je trouve ça plus marrant que mes goûts en zik. Alors, avec mon cher et tendre, on s'est engueulé pendant 98 minutes au total, sur un an, ça va. Hein, mais alors, l'engueulade top 1, c'est la fois où j'ai fait la gueule parce que j'ai trouvé qu'il avait bu trop d'eau. Oh. Voilà. Mais Marie, t'es une meuf full toxique, oui. Mais alors, je sors une bouteille d'eau bien fraîche, hein. Imaginez la scène, tout ça, je la sors du frigo pour me désaltérer, et il est là, il la prend la bouteille, il se l'enfile d'une traite, quoi, limite en une seule gorgée, tellement il est grand, là, il est immense du haut de ses 2 mètres, il est là, aglou, aglou, aglou. Mais ça rend dingue, non ? Ça me monte la montardounée. Non, je vénère rien que d'y repenser. Pourquoi ça me vénère autant ? Parce qu'une fois, mon gars, il a tellement bu d'eau, tellement vite, qu'il a dégobillé. Voilà, un gros bébé avec son biberon, quoi. Il a pas régurgité parce qu'il a pas fait son rototo. Ça me rend dingue. Donc, bon, l'engueulade s'est terminée par « Mais Marie, tu me reproches de boire de l'eau ?» Je me suis sentie conne. Voilà, terminé. Et pour finir la chronique en beauté, je vous ai fait le rapt de la rédaction de Zoom Zoom Zen. Et on commence par quelques statistiques. Manon ne m'a griffé au visage que 27 fois cette année. Dont une fois parce que j'ai eu le malheur de tousser dans mon coude à quelques mètres d'elle. Elle a alors sauté à la gorge en hurlant « J'ai pas fait mon vaccin, j'ai pas fait mon vaccin !» Cyril, lui, a répondu à 198 de mes mails par un très chaleureux « Ok », et deux fois hein, par « Ok pour moi ». 13, c'est le nombre de fois où Quentin m'a demandé « Mais comment ça va, toi, vraiment ?» Et alors, Mathieu, en 2025, il m'a adressé la parole seulement 6 minutes et 19 secondes. Le fameux « Toi là, le clown, c'est quoi ton sujet, là ?» Quel homme. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Et fous-moi Don't Stop Believing, là, je veux pas que ça s'arrête, les blagues. La version de Glee, bien sûr.
On adore. Merci Marie. À suivre, François Purseigle de la coordination rurale. Quentin sera complètement à la rue comme d'habitude. Et Nathalie Saint-Cricq nous parlera du livre du président Sarkozy. Tout ça après Aretha Franklin, Chains of Fools sur France Inter. Chains, chains, chains.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
L'extrême droite est-elle en train de gagner le vote des agriculteurs ? Zoom cet après-midi sur le deuxième syndicat agricole, la coordination rurale. Le sociologue spécialiste du monde agricole, François Purseigle, est avec nous. François, lors de sa prise de fonction, le nouveau président de la coordination rurale, Bertrand Venteau, a dit vouloir combattre les écologistes. C'est ce qui caractérise le syndicat, être farouchement contre l'écologie politique ?
Surtout contre, et farouchement contre, un mode de dialogue singulier avec l'État, entretenu par le syndicalisme majoritaire, ce qu'on appelle la co-gestion. Mais la plupart des agriculteurs se pensent être les premiers écologistes de France.
C'est quoi la co-gestion ?
La cogestion, c'est une forme de dialogue qui correspond à un moment donné de l'histoire. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et l'État décide de gérer avec Bruxelles les grandes questions internationales en matière agricole et de confier aussi la politique du développement agricole aux organisations syndicales et notamment le syndicat majoritaire de l'époque, la FNSEA.
Bertrand Ventoy a battu la présidente sortante. Il y avait vraiment des grosses différences entre les deux ?
Difficile à dire. Disons, dans les modes d'action, on voit qu'il y a des différences peut-être entre un certain nombre d'adhérents situés plutôt dans l'ouest, le nord-ouest de la France, et d'autres adhérents dans le sud-ouest de la France, c'est-à-dire les répertoires d'action, hein, comme on dit, ne sont peut-être pas les mêmes. Et un certain nombre d'agriculteurs, même à la coordination rurale, ne se retrouvent pas toujours dans des modes d'action plutôt violents.
Oui, mais même dans les mots, c'est très dur. Si on va le citer, les écolos, il dit, hein, je cite, « Les écolos, la décroissance, veulent nous crever, nous devons leur faire la peau ». Ce sont des termes qu'on entend habituellement dans le monde rural, ça, ou pas trop ?
Non, pas forcément, parce que vous avez des syndicats comme la Confédération Paysanne, mais même des groupes autonomes comme les Ultras, ou même au sein de la FNSEA, des gens qui sont finalement épris de questions environnementales, qui se posent des questions par rapport aux transformations des systèmes agricoles, et qui sont beaucoup moins virulents autour, finalement, de ce qui apparaîtrait être l'adversaire numéro un.
La coordination rurale aujourd'hui est à la tête d'une dizaine de chambres d'agriculture. C'est clairement le syndicat qui monte. Est-ce qu'il peut menacer le leadership de la FNSEA ?
Difficile à dire parce que pour un syndicat qui a lutté contre la cogestion, il va devoir co-gérer à l'échelle des départements, finalement, avec l'État. Puisque les chambres d'agriculture sont des appareils de représentation reconnus par l'État et qui assurent une politique de développement, il va falloir mettre les mains dans le cambouis. Et là, ça va être une autre histoire pour un certain nombre d'organisations à l'échelle des territoires, notamment de la coordination.
Et d'où viennent les accusations de connivence avec le Rassemblement national ?
Dans les enquêtes qu'on a pu réaliser, on voit bien un certain tropisme entre les sympathisants de la coordination rurale et les sympathisants notamment de Jordan Bardella ou de Marion Maréchal-Le Pen. Dans une enquête qu'on a réalisée dernièrement, on voit bien que 40% des proches de la coordination sont plutôt proches finalement des idées de Jordan Bardella, voire même 20% proches des idées de Marion Maréchal. Donc on arrive à un score de 60% des proches de la coordination, proches finalement plutôt des partis d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas au sein de la FNSEA et au sein, bien entendu, de la Confédération Paysanne. C'est lié aussi à l'histoire même du mouvement, puisque ce mouvement est une coordination à son origine qui s'appuie sur une vieille organisation syndicale, la FFA, la Fédération Française de l'Agriculture, en 1995, avec des leaders qui, à l'époque, sont très proches, notamment de Philippe de Villiers. Et puis, dans les années quand même 2000, ce syndicat cherche finalement à prendre un peu le large, cherche à neutraliser ses positions. Et c'est dans les années 2010-2020 qu'on voit finalement un certain nombre de leaders, notamment de la coordination rurale dans le sud-ouest, se dire véritablement proches de l'extrême droite.
Vous avez parlé de Jordan Bardella, il n'y a pas de différence avec Marine Le Pen ? Que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose.
Difficile à dire, mais attention, moi je tiens à dire aussi une chose, c'est que les agriculteurs sont ceux et celles qui ont fait rempart aux idées d'extrême droite pendant très longtemps. Il faut attendre 2002 pour que le verrou saute. Les agriculteurs votent beaucoup moins pour Jordan Bardella que d'autres catégories, et même les ruraux. C'est-à-dire qu'on a une population agricole qui aujourd'hui vote essentiellement pour les Républicains. Voilà, ça c'est un point important à souligner, voire plus que le reste de la population. Donc il y a une tentation pour l'extrême droite, notamment chez les plus jeunes, mais il n'y a pas un basculement vers l'extrême droite. Et on voit bien qu'il y a des groupes autonomes aussi qui font rempart dans le sud-ouest de la France à, finalement, cette extrême droite qui ruissellerait sur des territoires ruraux. Donc attention, les mondes agricoles ne basculent pas.
Toutes les digues n'ont pas sauté.
Non.
Absolument. Et vous, connaissez-vous la coordination rurale, ce syndicat agricole qui fait des clins d'œil à l'extrême droite ? Quentin, comme chaque jour, vous êtes allé recueillir les réactions des passants concernant notre sujet du jour.
Je marche dans la rue et je rencontre ce monsieur, sac à dos coloré, en train de déguster un petit bout de saucisson. A-t-il eu, lui aussi, ce calendrier de l'Avent dont tout le monde raffole dans ce bureau ? Bref, je lui dis que je vais lui faire lire quelque chose.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Moi, c'est Jacques, moi.
Jacques, vous sortez vos lunettes ?
Bah, je suis obligé.
Vous avez quel âge, vous ?
J'ai 70 ans.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je fais mon possible. Je fais mon possible.
On fait un truc là-dessus. Vous habitez où ?
J'habite en Normandie, à Carole-Plage, près de Granville.
Bah, j'ai passé mes vacances là-bas. Il est sympa, ce Jacques. A-t-il vu passer ce qui nous intéresse aujourd'hui ?
Coordination rurale.
Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Bah, c'est-à-dire que les paysans, ils essayent de créer une petite association là, pour voir s'ils peuvent défendre leurs intérêts, l'intérêt commun et l'intérêt national. Mais ça va être difficile. Moi, la FNSEA, les gens qui sont multimillionnaires et qui qui prônent la défense des paysans alors qu'ils n'en ont rien à cirer et qu'ils essayent toujours d'accaparer un petit peu leurs biens si c'est possible. Pour truster, c'est du trust, c'est un trust. Le FNR, c'est un trust.
Donc pour Jacques, il fallait renverser la table.
Dans une autre vie, j'habitais le sud et les gens, ils avaient complètement arrêté justement de truster avec des coopératives. Ils faisaient leurs produits, ils vendaient leurs récoltes et puis ça marchait très bien. On est une nation de paysans, ça fait depuis des siècles qu'on est une nation de paysans. Il faut laisser les paysans nous nourrir, nous faire des produits qui sont agréables à manger et même plus qu'agréables, et arrêter de mettre la politique dans l'agriculture. La politique, elle n'a rien à voir avec l'agriculture.
Je reviens sur le mécontentement des agriculteurs français. Est-ce qu'il faut tout bloquer ?
Il n'y a pas que Paris qui devrait bloquer. Ils devraient venir avec leur tracteur au Palais de l'Élysée, là, et puis expliquer à Macron qu'il faut qu'il arrête de nous faire chier avec des paysans, des gauchos d'Amérique du Sud ou des... Hein ? Voilà. On a ce qu'il faut en France pour nourrir notre pays, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. S'ils vont ailleurs, c'est parce qu'il y a du business. S'il y a du business, c'est de la politique. S'il y a de la politique, c'est des intérêts. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ça. C'est pas bon du tout, ça.
Je remercie Jacques, à qui je demande de saluer ma belle Normandie. Je rencontre maintenant cette dame qui me sourit et qui m'invite à ce qu'on discute sur ce banc.
Allez, je m'assois. Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Sophie.
Vous habitez où ?
À côté de Bordeaux, entre Bergerac et Bordeaux, Sainte-Foy-la-Grande.
Est-ce qu'elle a entendu parler du président de la coordination rurale, Bertrand Ventot, dont on a parlé, qui veut faire, je cite, la peau aux écolos ?
Il y a des cons partout, hein. Je sais ce que vous voulez que je vous dise. Alors s'il n'a pas compris le minimum vital des gens qui se crèvent, moi j'habite à la campagne, j'ai travaillé dans les vignes, donc je sais ce que c'est que le travail de la terre, et je peux vous dire que c'est pas rien, hein, de se lever dans le froid tous les jours, les bêtes... Ils sont étranglés. Ils en ont marre de toutes ces règles européennes. Ils se font chier avec des normes. Et puis bah, les Européens passent leur viande de merde et passent leur blé de merde.
Ah, j'entends évidemment. Mais justement, les agriculteurs pris à la gorge, se tournent-ils vers un syndicat plus radical ?
Alors, c'est ça le problème. C'est que dans ces groupuscules, il y a beaucoup qui sont menés par les chasseurs, des gens qui aussi veulent toujours utiliser des engrais et veulent aussi faire des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc oui, c'est compliqué, en fait. Hein. Mais bon, pour vivre à la campagne, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens et beaucoup de jeunes qui s'y installent et qui essayent justement de refaire des haies, de refaire une agriculture raisonnée. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de ça. Moi, je compte surtout là-dessus, plus que sur ces syndicats qui, en fait, pensent à leur fric, en fait, hein, quelque part. Et alors,
encore une histoire de profit. Ma dernière rencontre, c'est cet homme. Il s'appelle Karl. Il découvre la notion qu'on décortique aujourd'hui dans l'émission.
Coordination rurale.
C'est quoi ?
Bah c'est en fait c'est un sujet politique là un peu.
Alors oui, forcément ça l'est, et c'est là-dessus que je veux l'emmener. Est-ce qu'on doit abandonner la campagne à des pensées radicales et même des pensées d'extrême droite?
Si en tout cas elle est abandonnée par la gauche, je peux comprendre qu'ils se tournent vers la droite. Après.
Est-ce qu'on joue sur une forme de vulnérabilité des agriculteurs pour faire passer des idées plus radicales, quoi?
Ouais, c'est possible. Ouais, bien sûr que c'est une population fragile, on va dire, on le sait très bien, hein, avec tous les problèmes qu'il y a depuis des années sur notamment les producteurs de lait et autres. De toute façon, comme toute faiblesse, ça peut être rattrapé à des fins politiques.
Et c'est peut-être ça le vrai risque aujourd'hui, qu'à force de laisser la détresse agricole sans réponse claire, d'autres discours plus durs, plus simplistes, plus extrêmes fassent leur chemin. C'est simple, si personne n'apporte de solution, d'autres vont apporter des slogans et ils savent très bien où les planter.
Merci Quentin, François Pursec, je vous ai vu beaucoup rire, vous étonner, souffler un peu parfois à tout ce qui se disait dans le micro-trottoir, un sentiment global ?
Bah, on voit ici même, on entend ici même le fait que l'agriculture est souvent fantasmée. On voit bien qu'on est très loin des réalités, on voit bien que la plupart des Français qui sont de moins en moins issus des mondes agricoles pensent savoir ce que sont les réalités de l'agriculture. On caricature finalement une pluralité de pratiques, de positionnements idéologiques. Hein. On dit que bah, ces agriculteurs ont complètement basculé vers les extrêmes, c'est juste un peu plus compliqué que ça. On voit bien aujourd'hui qu'on fantasme finalement un secteur qui cristallise des enjeux qui sont forts. On pense connaître l'agriculture alors qu'on passe souvent à côté d'elle et on ne regarde pas finalement ce qui se joue en termes de transformation.
Après, Jacques parle de l'embourgeoisement quand même de la FNSEA et nous parle des terres agricoles et de trust. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il veut dire ?
On a aujourd'hui l'émergence d'entreprises agricoles aux allures de firmes, aux allures de sociétés. La plupart des exploitations agricoles, la plupart des Français l'ignorent, sont des sociétés comme les autres. Ce qu'on retrouve dans le secteur de l'artisanat, le commerce ou l'industrie, on le retrouve en agriculture. Et c'est pas complètement une nouveauté. Peut-on parler de trust ? Non, attention, je pense qu'il faut faire attention. On n'admet pas de l'agriculture ce qu'on admet pour d'autres secteurs d'activité. On n'admet pas de voir finalement, et c'est aussi pour ça que les agriculteurs sont en colère, quelle que soit leur obédience, de considérer l'agriculture finalement comme une somme de projets entrepreneuriaux quels qu'ils soient, quelle que soit la taille. Donc attention, et notamment en France, on est très très loin de ces agricultures de firmes qu'on a pu voir se développer même en Espagne ou en Ukraine. Donc les agriculteurs réclament quoi ? Ils réclament surtout, quelle que soit leur position idéologique, qu'on les reconnaisse pour ce qu'ils sont et pour la diversité des ambitions qu'ils portent à l'échelle de leurs entreprises. C'est ça qui est réclamé à un moment donné. Regardons en face finalement une agriculture qui correspond pas toujours finalement à la ferme, à la papa, à Martine à la ferme, qui correspond aussi finalement à des situations beaucoup plus complexes. Et la complexité signifie pas forcément le trust ou l'enrichissement. Il faut regarder de près ce qui se joue finalement dans des fermes qui sont marquées du sceau de l'incertitude et qui sont des entreprises comme les autres. Point.
On l'a entendu aussi dans le micro-trottoir. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord que la classe politique a abandonné les campagnes au profit justement des syndicats ?
Oui et non. Je pense qu'on a mis sous le tapis un certain nombre de réalités. C'est clair. On n'a pas voulu regarder en face finalement des transformations qui avaient cours dans des exploitations agricoles, parce que la classe politique, de gauche comme de droite, a continué à fantasmer et idéaliser cette agriculture qui ne serait que familiale, que conjugale, etc. On a nié un certain nombre de transformations, donc on n'a pas en plus défendu l'agriculture familiale française, auquel finalement les politiques publiques étaient censées répondre. Voilà. Pourquoi ? Parce que on n'a pas considéré que les exploitations agricoles étaient en mouvement. On a voulu les assigner à une situation qui ne leur correspond pas. On n'a pas un abandon par la classe politique, mais il y a la nécessité que la classe politique, finalement, s'empare des véritables défis sociaux, entrepreneuriaux et territoriaux qui se posent à l'agriculture. Et ce sont des défis en termes de renouvellement des actifs.
Et le Rassemblement National le fait, par exemple ?
Non, non. Pas plus que
l'autre. Que les autres. Mmh.
Pas plus que les autres. Et on voit bien que, en fait, finalement, le Rassemblement National surfe sur une souffrance, surfe sur un désespoir. Et finalement, on voit bien qu'il n'y a pas forcément de projet en termes de transformation de ces agricultures-là.
Bonjour Nathalie Sacric.
Bonjour à tous.
Vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Vous avez notamment animé le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les auditeurs de France Inter vous écoutaient dans Questions politiques le dimanche, ici même. Vous faites partie des journalistes très bien informés qui ont déjà lu le fameux Le journal d'un prisonnier, livre de Nicolas Sarkozy. Quel est le ton ? Est-ce qu'on ressent de la rancœur, un esprit revanchard ou au contraire, au fond, une forme d'abattement dans les propos de Nicolas Sarkozy?
Alors, il y a un peu de tout. Il se défend de toute forme de revanche ou d'envie de rancœur. Il dit qu'il n'est pas Edmond Dantès, à laquelle il fait référence régulièrement. C'est-à-dire que, quand même, le comte de Monte Cristo a passé sa vie à essayer de se venger par la suite, dont la référence est un peu douteuse. Il y a quelque chose d'un peu naïf, c'est-à-dire une impression que il y a des mots utilisés comme calvaire, chemin de croix, supplice, tragédie, prière. Et comme il se trouve qu'il est sorti à peu près au même moment que Boualem Sansal, quelquefois on a envie de se dire, c'est quand même pas, ils ne rentrent pas de camp de concentration ni d'une prison, d'une horrible prison, d'une geôle monstrueuse. Et puis après, il y a des côtés touchants où d'abord ils découvrent des choses que ceux qui ne sont pas allés en prison ne connaissent pas.
C'est fou parce qu'il a été ministre de l'Intérieur quand même.
Oui, mais enfin ça ne vous oblige pas à aller vous laver avec une bouche qui coule le long des mains. Les bruits la nuit, les gens qui se battent et ça fait un peu voyage en terre inconnue et je découvre des choses qu'on sait, mais on les sait, on les a pas éprouvées. Donc, au début, on peut être énervé en disant il dramatise. Par moments, on est touché. Et puis, on se dit après, c'est lui. C'est-à-dire, lui et ses excès. C'est-à-dire que comme il est toujours impatient et qu'il veut toujours que tout se fasse, et ben, quand il est triste, il est très triste. Et quand il est gay, il est très gay. Et puis, voilà. Il y a un peu de naïveté et il y a sa conversion, son choc, métaphysique. C'est-à-dire que.
Il entre, il prie.
Il prie pas tout de suite, mais il s'agenouille un soir. Et ça aussi, pourquoi pas ? Quand on est seul, j'imagine que c'est. J'ai pas été présidente et je suis pas allée en prison, donc je peux pas voir le choc.
Le manque dans votre CV.
Je pense qu'à mon avis, la prison, je peux encore m'y mettre. La présidence, ça va être compliqué.
Le livre commence quand même par une confession sur ses relations avec Emmanuel Macron. Il raconte qu'il n'avait pas vraiment envie d'aller à l'Élysée 4 jours avant le début de son incarcération, à l'invitation du président de la République. Déjà, comment vous comprenez cette idée d'Emmanuel Macron de recevoir l'un de ses prédateurs prédécesseur à quelques jours de son entrée en prison.
En fait, il y a une mésentente entre eux. Il y a des bugs. Au début, ça allait à peu près. Et puis, il y a quelque chose qui l'a ulcéré, dont il parle volontiers d'ailleurs, et donc il le raconte dans le livre, c'est que Emmanuel Macron ne se soit pas mêlé de... Enfin, ne lui ait pas annoncé qu'il allait perdre sa Légion d'honneur, et il considère qu'on lui a fait une mauvaise façon. Du côté de l'Élysée, on a répondu que c'était pas... que le président pouvait se retirer pour pas se mêler de ce genre de choses, mais Nicolas Sarkozy considère ça comme une indignité.
Ils sont fâchés, les deux ?
Ils sont pas très... Non, je vois, oui... Enfin, si vous voulez, fâché, c'est pas, il n'y a pas, mais simplement, Nicolas Sarkozy est quand même assez rancunier, du moins qui a une grande mémoire des choses, et qui a un sens de la honte, de l'affront, de l'orgueil, et tout très très développé, considère qu'on ne peut pas le traiter comme ça, parce qu'il a un côté éruptif, c'est-à-dire, on m'a fait ça, je ne l'oublierai pas.
C'était prévu avant qu'il entre en prison avec Fayard, c'était un coup d'édition ?
Je ne sais pas. J'imagine que quand on se dit qu'on va rentrer en prison, il a eu le temps de se le dire. On s'inquiète sur ce qu'on va faire, et comme on n'était pas le genre à amener des mots fléchés, il s'est dit, et comme ses livres précédents ont très bien marché, c'était le premier, ça devait être 250 000, le second, 200 000 dans mon... C'est pas dans mon mémoire, c'est que j'ai appelé l'éditeur. Là, je pense que le tirage est un peu plus faible, mais c'est quand même quelqu'un qui fait partie. Vous savez que personne ne lit plus, donc quand on est à 200 000, on est au champagne.
Merci Nathalie Saint-Cricq, vous ne bougez pas. Direction Dubaï à présent avec Christian Chéneau et un Zoom Zoom Test aussi consacré à cette ville magnifique qui brille de mille feux. Et une pièce jointe de Manon Mariani également, après Andrea Laszlo de Simone. Quando sur Inter.
È colpa del respiro fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca stupida come me e del tuo corpo che la tocca. È colpa dell'istinto agile come me che corre sempre dritto al punto. È colpa dell'amore ruvido come me, se ormai non voglio più morire. Ascoltare.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Il y a en 2025 deux villes susceptibles, de par le choc visuel qu'elles vous procurent, de vous changer. Dubaï et Alençon. Manon Attention. N'a pas encore visité Dubaï, mais elle garde un souvenir mémorable d'Alençon qu'elle avait découvert à l'occasion de la cousinade annuelle des Lui.
Mon Dieu, avec le gros Bershka là, oh là là, sur la place du village.
C'est peut-être ce jour-là, face au gros Bershka de la place du village, que Manon a décidé qu'elle devait absolument aller vivre à Dubaï. Une ville où, comme Alençon, tout est possible, mais en mieux. Jouons au Zoom Zoom Test. Et pour cette première question...
C'est très beau alors.
Je viendrai content.
C'est très beau.
On peut dire beaucoup de choses, mais on ne peut pas dire n'importe quoi non plus.
Place de la Madeleine, c'est très joli.
Pour cette première question, évoquons d'abord le climat dubaïote, qu'on peut résumer comme l'inverse du climat alençonnais. Alors bien sûr, là-bas, le climat importe peu, puisque tout est climatisé, et que même s'il fait 50 degrés à l'ombre, vous pouvez toujours faire de la luge indoor dans un centre commercial. Néanmoins, dans la série, on ne refuse rien. On ne se refuse rien à Dubaï. Sachez que là-bas, on s'autorise aussi à faire pleuvoir pour rafraîchir l'atmosphère. D'après vous, quelle astucieuse méthode est employée? On envoie de gros dirigeables remplis d'eau qui font office de brumisateurs géants. On envoie des drones qui envoient des décharges électriques dans les nuages, sorte de taser de pluie, où on diffuse la reprise de Toulouse de Claude Nougaro par Quentin.
Oh Toulouse, mon pays.
C'est B.
C'est la B pour vous, Manon.
Elle a dit CB par contre, moi j'ai dit
CB.
Moi,
vous avez juste B, juste B. Ouais. B c'était net.
Notre invité nous a aidé, je tiens à le préciser.
Ah.
L'ensemencement des nuages.
Voilà. Vous aimez le principe du taser, découvrez le taser de nuages. Fascinante technologie. Vu qu'il pleut déjà pas beaucoup à Dubaï et qu'en plus la plupart du temps les gouttes de pluie s'évaporent avant même de toucher le sol, un mec s'est dit un jour, tiens, et si on envoyait des drones dans les nuages avec un taser géant qui vont bouger les petites gouttes de pluie, et après les gouttes elles se collent entre elles, deviennent plus grosses et du coup elles arrivent enfin jusqu'au sol. Estimant, je cite, que l'idée n'était pas plus conne que les tasses Lucy Gallou, les Dubaïotes l'ont fait. Dubaï, la spectaculaire, mais aussi Dubaï, la motorisée. Là-bas, l'infâme chenapan, l'abominable gredin qui m'a volé une partie de ma jeunesse en me fauchant avec sa camionnette la semaine dernière dans Paris, ne se serait pas échappé. Les flics l'auraient rattrapé, car à Dubaï, les flics ne roulent pas en Skoda comme chez nous, mais en Ferrari. Et cette passion de l'automobile génère un étonnant business parallèle. Ainsi, Manon, Quentin, savez-vous ce qu'on peut acheter aux enchères pour une petite fortune à Dubaï? Un chauffeur personnel ancien pilote de Formule 1? Une plaque d'immatriculation? Ou une place de parking?
Les trois.
Je vous propose une autre.
Ah. B et C.
Je crois que c'est l'invité qui va remporter le quiz aujourd'hui. C'était la réponse B, la plaque d'immatriculation.
J'aime bien faire...
Imaginez Cyril, cruiser dans la zone commerciale de Ponto Cobo entre le Aldi et le Action au volant de votre Ford Raptor arborant fièrement une plaque MAGA 77. Oh, ça vaudrait pas la peine de mettre un petit bifton, ça? Eh bien, Balwinder Sahani, lui, a mis 8 millions d'euros. 8 millions d'euros pour avoir la plaque
et
portant le seul chiffre 5. Oui. Ça lui a coûté 6 millions, sachant que l'année précédente, il avait déjà déboursé 5 millions pour avoir le numéro 9 lors de la traditionnelle mise aux enchères de plaques iconiques par les autorités routières d'Ubayot. On sait s'amuser là-bas. Alors, vous me direz...
Faut avoir plus rien à foutre.
Vraiment, la notion de problème de riche est vraiment s'illustre parfaitement ici. Alors vous me direz, c'est bien beau d'avoir de grosses bagnoles et des plaques à un chiffre, mais on parle quand même d'une ville où il est très compliqué de circuler, car on le sait peu, mais à Dubaï, il y a plus de 7000 dodanes. C'est la ville au monde qui en compte le plus au kilomètre carré. À Dubaï, il n'y a aucun feu rouge, comme dans un rêve de Louis Sarkozy. Ou à Dubaï, il n'y a pas d'adresse, ni de numéro de rue.
Ah,
mais je crois que c'est B et C.
Moi, je dirais... C'est quoi la première,
les
déjà
trois?
La ville du monde où il y a le plus de dodanes au mètre carré.
Ah, je dirais A, alors.
Non, ça peut pas, parce qu'il y a des Lamborghini. Donc c'est B,
c'est B ou C. Analyse. C'est B ou C, Quentin, mais c'est laquelle?
Ah bah c'est C.
C'est la C, et Manon... Manon a chopé la victoire.
Elle non a dit A.
Très bien. Alors, c'est une bonne réponse de Quentin. Déroutant de Dubaï, c'est le cas de le dire. Déroutant Émirats Arabes Unis, tout court d'ailleurs, puisque oui, il n'y a pas dans ce pays ni code postal ni numérotation de rue systématique, les Émirats ayant leur propre système, le Makani. Chaque bâtiment terminé se voit attribuer un code à 10 chiffres qui doit figurer sur une plaque. Le Makani, qui signifie malocalisation en arabe, est ensuite directement intégré dans les GPS, ce que notre rédacteur en chef retailliste appelle le grand remplacement de la géolocalisation. Et pour terminer, on va s'arrêter un peu de s'extasier comme ça devant une skyline sans âme, alors que le style à la française s'exporte partout, comme en témoigne le très beau selfie pris par Cyril avec Lynn Renault devant la réplique de la Tour Eiffel à Las Vegas l'année dernière. À ce titre, saviez-vous qu'un très beau projet, hélas abandonné il y a quelques années, prévoyait de reproduire à Dubaï le panier marseillais, la presqu'île de Lyon ou le centre-ville iconique d'Alençon?
Ah.
Bah ouais, je pense B. Moi, je vais dire B. Le panier, non, bizarre. B.
Ça serait bizarre de vouloir reproduire le panier.
Ouais.
B, du pourtant, coup. Vous dites B, c'est-à-dire Lyon. Ils ont recréé la presqu'île de Lyon. C'est une bonne réponse, Quentin, oui.
Et B.
Imaginez le rêve. Vous sortez d'une visite à la Burj Khalifa et vous vous retrouvez dans un bouchon lyonnais sur les pentes de la Croix-Rousse.
Il y aurait
même des traboules, effectivement, ces petits passages secrets entre les immeubles, une école hôtelière Paul Bocuse. Gérard Collomb himself avait validé le projet, mais voilà, en 2008, crise financière, baie de bail, pâté en croûte et joli bouchon lyonnais d'Oubayotte. Encore une défaite lyonnaise et une victoire de Quentin, lui.
Bravo.
Lionel,
je suis jamais allé à Lyon.
Une défaite lyonnaise, c'est ça?
Lyonnaise, oui.
Ah oui, pardon. Il
perd tout le temps.
Lionel.
Oui, c'est vrai qu'il a dit Lionel.
Vous savez, je peux vous sortir la phrase que Marie de Brère adore. Allez vous faire nettoyer la trompe de stache, mon vieux.
C'est vrai.
Oui. Dubaï fait-il encore rêver les influenceurs? Le grand reporter à Radio France, spécialiste du Moyen-Orient, Christian Cheneau, est toujours avec nous pour comprendre les dessous de Dubaï, le fonctionnement de cette ville-monde. Christian, pourquoi tant d'influenceurs français ont décidé de s'installer à Dubaï? Est-ce que c'est uniquement pour échapper au fisc, comme on peut le penser spontanément?
D'abord parce que les autorités de Dubaï ont donné des généreux visas, ont même payé les villas, il y a eu une aide à l'installation. Donc parce que, encore une fois, Dubaï, c'est une ville bling-bling, on l'a bien compris. Et donc, il faut être dans la lumière. Et donc, quoi de mieux que ce soit des Occidentaux ou du monde entier, des
Chinois,
qui viennent faire la pub de la ville. Encore une fois, on en revient à tout ça. Ce sont les étrangers qui font finalement la fortune de Dubaï. Et donc, c'est un marché d'ailleurs, hein, parce qu'évidemment, ils ont rayonné. Alors évidemment, c'est un petit peu, parfois, le mythe est un peu écorné, parce qu'il y en a qui reviennent, il y en a qui sont déçus, il y en a qui partent, etc. Et puis, ça fait un peu too much, quoi. C'est pour ça que la réputation de Dubaï commence à être un peu écornée, parce que ça fait un peu, entre guillemets, pas très élégant, voilà.
Nouveau riche, un peu.
Un peu nouveau riche, ça fait bling-bling. Et donc, c'est pour ça que, voilà, encore une fois, ils cherchent d'autres, je veux dire, personnes plus riches. Ils aiment bien les millionnaires, donc ils veulent beaucoup plus de gens très riches pour justement ne pas payer d'impôts, etc., et acheter des villas.
Mais ils cherchent pas à faire venir par exemple des boss de la tech, un Mark Zuckerberg par exemple
alors, non, pas forcément, mais ils ont donné des visas pour tout ce qui est les gens qui sortent d'école d'ingénieurs informatiques, d'IA, et donc on a des sortes de golden visas pour attirer dans l'audiovisuel, le cinéma, etc., parce qu'il y a plein de studios. Donc toute cette industrie du numérique, du cinéma, des séries, du virtuel, ça, ils donnent des visas très facilement. En tout cas, ils encouragent les gens à venir, parce qu'ils ont besoin, effectivement, de main-d'œuvre.
Est-ce que l'islam joue encore un rôle dans la société et la politique de Dubaï? J'ai lu que, notamment, les expatriés peuvent se soustraire à la loi islamique,
oui.
Ça, c'est vrai.
Oui.
Mais est-ce que la loi islamique a quand même une importance encore sur place, ou c'est vraiment un rideau de fumée?
Non, alors, à Dubaï, encore une fois, c'est une ville-monde. Vous avez des mosquées, mais vous avez aussi des églises, des synagogues, des temples bouddhistes. Oui. Et donc, encore une fois, chacun vit sa vie.
Ça se passe bien?
Oui, ça se passe bien, parce qu'encore une fois, tout le monde est sous surveillance. Encore une fois, si ça se passait mal, voilà. Eux, par exemple, les islamistes, ils en veulent surtout pas. Enfin, les Émirats sont connus pour être les ennemis des islamistes. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer sa foi dans la mosquée. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes français d'origine musulmane qui viennent là-bas, parce qu'évidemment, ils sont plus cool, entre guillemets, là-bas. Donc, on peut pratiquer sa foi. Eux, encore une fois, tout ce qui est politique, tout ce qui est islamiste, enfin, tout ce qui est idéologie, on n'en veut pas. Nous, c'est l'idéologie du dollar. On veut du dollar, moi, bah.
Est-ce que c'est quand même une société, un émirat assez misogyne? Comment ça se passe pour les femmes là-bas?
Non, elles travaillent. Alors, évidemment, elles peuvent conduire. Après, évidemment, il y en a beaucoup qui sont voilées. Hein, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le Golfe, mais il n'y a pas que les Émirats, c'est que pourquoi on porte effectivement cette abaya noire pour les femmes et blanche pour les hommes? Parce que si les hommes et les femmes portaient un habit occidental, il n'y aurait plus d'Émiratis, il n'y aurait plus de Saoudiens, il n'y aurait plus de Qatariens, c'est-à-dire qu'on ne les verrait plus. Ça permet de les distinguer dans l'espace public, d'avoir des gens, et on sait que c'est un Dubaïote, et on sait qu'on ne va pas s'adresser à lui de manière... Enfin, on ne va pas l'emmerder, quoi.
Mais ça ne choque pas une influenceuse qui est en mini-short, décolleté, etc.
On peut être en mini-jupe. Alors, il y a des plages à côté de justement, l'hôtel Burj Al Arab, etc. Il y a une plage, on pourrait être à Miami, hein. C'est-à-dire qu'il y a des kiosques, etc. On fait son footing, on peut être en mini-jupe, enfin, en bikini, enfin, je veux dire. Non, ça cohabite, hein. Et encore une fois, c'est quand même très libéral. Il faut rappeler, historiquement, Dubaï, c'était quand même un port des commerçants qui étaient branchés sur l'Inde, sur le business. C'est quand même, pour le coup, c'est des gens du désert, mais qui ont quand même une tradition de la mer,
aussi,
d'ouverture, exactement.
l'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une île, aujourd'hui, elle est devenue la destination préférée des influenceurs au point de concurrencer Dubaï. Je vous parle de Bali. Depuis quelques temps, l'île indonésienne, connue pour ses plages magnifiques, génère une attraction touristique énorme. 60% de son PIB repose sur le tourisme aujourd'hui. Et les réseaux sociaux y sont évidemment pour beaucoup.
On a loué des villas, elles sont genre incroyables. La vie, elle est pas chère, on peut faire plein d'activités. On peut surfer aussi, on peut aller au courant tous les soirs. Il y a plein d'endroits différents selon ton mood.
Sur TikTok, le hashtag Bali Live cumule plus d'un milliard de vues. Des milliers de vidéos prônent le retour à la nature, la reconnexion, la libération de leurs chakras. L'île est vendue comme une destination spirituelle. Il y a par exemple de plus en plus de retraites de yoga qui y sont organisées et les business de chamans qui lisent les cartes et les astres explosent. Ce qui est intéressant, c'est que Bali représente tout l'inverse de Dubaï. Les influenceurs qui vivent aux Émirats Arabes Unis sont dans un univers, on l'a dit, bling bling, dans une ville en toc, avec des maisons qui se ressemblent toutes, des fausses plages. C'est vraiment la représentation du mode de vie des nouveaux riches qui fuient là-bas pour pas payer d'impôts. D'un côté, il y a donc les grandes tours de Dubaï et les restaurants dans des malls gigantesques et de l'autre, les plages paradisiaques d'Ubud avec des petits tuk-tuk pour faire le tour de l'île. Deux salles, deux ambiances. Mais ce que ne montrent pas les vidéos ensoleillées de Bali, c'est l'envers du décor du surtourisme. Les routes sont par exemple blindées de scooters, de voitures avec des embouteillages monstrueux. Il y a des centaines de personnes sur les mêmes plages au même moment pour voir un coucher de soleil. Pour visiter certains temples indonésiens, il faut faire des heures de queue et payer, évidemment, pour avoir sa photo. Bali est devenu un véritable business. Depuis février 2024, le gouvernement a donc mis en place une taxe de 150 000 roupies, environ 9 euros, pour tous les touristes étrangers destinés à financer la préservation culturelle et environnementale de l'île. Alors Bali tente de résister en taxant les visiteurs pour sauver son identité, preuve que même les paradis doivent désormais se protéger de leur propre succès.
Merci Manon. Qui voilà qui vient de surgir à vos côtés? Ce n'est pas Camille Lorente qui conclura cette émission, mais bien son alter ego aujourd'hui, tout droit sorti d'un univers parallèle où notre humoriste n'aurait pas quitté son Ardèche natale. Bonjour Camtar.
Yo la famille, ravie d'être là pour parler piano. Moi ça me touche d'autant plus que je suis moi-même artiste pluridisciplinaire. Voilà, un petit peu zik, un peu de modelage, un peu de peinture avec mes menstrues, voilà, c'est varié, c'est varié.
C'est éclectique, oui. La chronique de Camille Lorente, c'est après David Walters Santico sur France Inter.
Okay. France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Camille Lorente devait nous rejoindre pour sa chronique, mais celle qui la remplace n'est autre qu'un cadeau de la terre-mère. Hein. Une enfant de Gaïa, dont il émane d'ailleurs un subtil mélange de patchouli et de tabac fleur de pays.
Yes, c'est Camouze, alias Mika, alias Camtar, pour ceux qui m'ont connu à l'époque où je vivais dans mon jumpy. Ardèche libre, bien sûr, hein, la lutte continue. S'il y en a qui veulent soutenir, je vous rappelle que des colliers porte-briques sont en vente à prix libre. Ils sont tissés dans un mélange de poils de Cyril et de Manon. Donc c'est un beau symbole d'unité, quoi. Bruce Lu, je suis trop contente de vous rencontrer parce que j'ai écouté le concert qui vous a sacré champion du monde de Piant. Parce qu'en fait, moi, j'adore Chopin.
Ah, vous aimez la musique classique ?
Mais non, je déconne, Mathieu, il est con, quoi. Vous êtes trop crédule, attention, vous êtes vacciné, c'est sûr. Mais non, wake up, je sors d'un festoche de psytrans progressive. Enfin, vous pensez que j'allais manquer 3 heures de sonate dans le Camtar. Enfin, Speed aurait pété un câble, quoi.
Speed, c'est votre chien ?
Mais non, Mathieu, Speed, c'est mon mec. Oh. Non, il s'appelle Maxime. Et après, en vrai, Bruce, on est trop pareils, vous et moi. Enfin, vous êtes un citoyen du monde. Moi, idem. Je suis née en Ardèche, mais j'étais au lycée dans la Drôme. Donc, on peut dire que j'ai un peu bourlingué. Aussi, vous avez donné une interview pour le Philharmonique de Strasbourg. La question du gars, c'était « Êtes-vous un chopinolâtre ?» Réponse de Bruce, « Plutôt un chopinophile lucide. » Bon, là, vous étiez tous sous champi, j'imagine. Encore un point commun, du coup. Et moi aussi, pareil, mes parents, ils ont voulu me foutre au piano, mais j'avais déjà des projets de vie nomade. Puis le Steinway, il passait pas dans le jumpy. Donc, j'ai dit direct no, quoi. No pasaran el pianito. Bruce, bon, vous êtes pas rebellé. Enfin, c'est OK, il y a zéro jugement de ma part. Enfin, si ça vous dérange pas d'être la petite bitch à Evre ou Jerry, je respecte à fond, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très ouvert. Enfin, voilà. Puis, je suis une enfant de Gaïa, mais je reste avant tout une femme. Donc, quand j'ai face à moi un homme avec des doigts aussi musclés, enfin, il m'en faut pas beaucoup pour que ma titi se transforme en clavier si vous captez le petit. Donc voilà, enfin, Bruce, s'il a 28 ans et qu'il kiffe les trucs de yeuf, genre les sonates et les pulls sur les épaules, j'ai vu ton Insta. Bah, c'est pas grave, c'est son choix en fait. Enfin, puis moi, je suis pas là pour faire dans les clichés en fait. Des jugements hâtifs à mon égard, il y en a eu aussi. Et c'est bon quoi, genre Camtar, t'es une babos, vas-y, tu joues de la flûte de Pan, haha, très marrant. Non. Je joue du flûtin guatémaltèque. Donc, à un moment, stop les préjugés, en fait. Quoi. Donc, bah, comme vous, Bruce, j'adore la ZIC. La ZIC, elle m'a littéralement sauvée. Enfin, faut savoir que moi, je suis partie assez loin dans la conso, pas mal de cannabis et tout. Donc, bah, en fait, au début, j'ai essayé d'arrêter en mâchant des bâtons de rugby. Et c'est vrai, ça me détendait bien. Mais après, ça fout la chiasse, donc c'est un choix à faire. Quoi. Mais clairement, je m'en serais jamais sorti sans le flûtin, quoi. Ça a été un vrai substitut. En fait, ça permet de bien reproduire le geste. Je parle du geste de fumer un joint, pas de sucer Pinocchio, je le précise. En fait, ben, moi, depuis... Mais Mathieu, j'ai l'impression que vous ne prenez pas au sérieux dans mon rétab, en fait. Moi, depuis que je suis clean, c'est jamais sans mon flûtin, quoi. Au départ, c'est juste une béquille. Et puis, bah, très vite, bim-bam, je suis lancé dans la compo, quoi. Je vous joue quelques notes.
Oui.
Voilà, hop, tac. Attendez.
Il n'y a pas de son.
C'est pire que Cyril.
C'est avec le piercing, ça peut gêner. Allez. L'instru.
Je pense
que ça fait une bonne chute à la chronique.
C'est un échec, c'est dommage. Mais c'est dommage parce que le flûtin guatémaltèque, faut savoir, c'est une mélange.
C'est un des moments les plus tristes qu'on vient de vivre.
C'est terrible. Et je me suis entraînée. Non mais attendez, je veux que vous entendiez.
Voilà, qui a au moins une note. Non.
Ah, il y a eu un petit débauche.
C'est un cauchemar, putain. Bon, dommage parce que c'est un instrument qui fait ressortir l'enfant intérieur. Et,
ah, ça se voit, là, je le vois.
À ça près, enfin, deux, trois notes et on aurait pu voir quelques valeurs humaines renaître dans les yeux de Mathieu. Donc, je suis dégoûtée. Enfin, si j'avais réussi à jouer, autant y voter à gauche au municipal. C'est dommage.
Merci, Camille Lorente. Ce florilège a été réalisé par Alicia Vullo. Quant à nous, on se retrouve lundi en direct à 16h. On parlera des Bossware, ces logiciels qui servent aux patrons à espionner leurs salariés. C'est pas joli. À lundi. Zoom, zoom, zen.